avant de monter dans un avion, vous êtes-vous déjà demandé combien de jours vous pourriez survivre en vous nourrissant uniquement avec ce qu'il y a à bord de l'appareil ?
On commençait à développer une société dans laquelle l'argent n'était que du papier. L'eau, il fallait la créer. Le corps d'un homme pouvait devenir la nourriture dont j'avais besoin.
Ces mots sont ceux de l'un des rescapés d'un crash aérien qui a bouleversé la planète entière. En 1972, un avion s'écrase au cœur de la cordillère des Andes avec à son bord 45 personnes, dont les membres d'une équipe de rugby uruguayenne. Après 10 jours, les recherches sont abandonnées. Impossible d'imaginer que des passagers aient pu survivre si longtemps aux nuits glaciales de la haute cordillère.
Et tu veux qu'on mange des êtres humains ?
Non, je veux qu'on mange de la viande pour ne pas mourir.
10 semaines plus tard, au fin fond d'une vallée reculée des Andes, un paysan chilien aperçoit 2 hommes de l'autre côté d'un torrent. L'un d'eux lui envoie un message qui le stupéfie.
Je viens de l'avion qui est tombé dans les montagnes. Je suis uruguayen. Dans l'avion, il y a encore 14 personnes accidentées. Où sommes-nous ?
Le monde entier va découvrir avec effroi et compassion comment les rescapés du crash ont survécu près de 2 mois et demi, coupés du monde, dans des conditions extrêmes. C'est cette histoire vraie de survie que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet et je vous emmène au cœur de la cordillère des Andes sur les traces de ceux qui, après bien des épreuves, sont parvenus à échapper à la mort in extremis. Octobre 1972. Deschamps, un ballon de rugby qui vole au-dessus des sièges entre 2 éclats de rire. L'ambiance est bonne à bord du Fairchild F-227. Ces passagers agités sont les jeunes membres d'une équipe locale uruguayenne de rugby amateur. Ils ont affrété cet avion de l'armée de l'air pour se rendre à Santiago du Chili pour une escapade de 4 jours qui s'annonce mémorable. À bord, il y a aussi des amis et des membres de la famille des joueurs invités à profiter du voyage. Tous sont impatients de découvrir le Chili, d'autant qu'ils devraient déjà y être. La veille, après avoir décollé de Montevideo, la capitale de l'Uruguay, leur avion a dû renoncer au dernier moment à franchir les hautes montagnes de la cordillère des Andes à cause d'une tempête. L'appareil s'est posé à l'aéroport de Mendoza, dernière ville argentine avant les Andes. Après cette escale forcée d'une nuit, les pilotes du Fairchild ont pris la décision de repartir malgré des conditions météo encore difficiles. Sans doute ont-ils été vivement encouragés par leur hiérarchie militaire à ne pas s'éterniser plus de 24 heures en territoire argentin. Après quelques atermoiements, à 14h18, le Fairchild a donc redécollé. Depuis le cockpit, les pilotes contemplent l'imposante barrière de roches et de glace qu'ils vont devoir franchir. Les sommets enneigés de la cordillère des Andes s'élèvent à une hauteur moyenne de 4300 mètres, avec des pics qui dépassent les 6500 mètres. Le Fairchild ne peut pas aller au-delà de 7500 mètres d'altitude. C'est un peu juste, surtout si l'on ajoute à l'équation les phénomènes atmosphériques qui génèrent de fortes perturbations au-dessus de ces reliefs. Pas de quoi inquiéter les passagers dans la cabine, subjugués par la beauté des sommets enneigés qu'ils aperçoivent par les hublots. Pour l'instant, l'avion longe l'imposante cordillère. Le pilote a décidé de contourner la partie centrale de la chaîne de montagnes où se trouvent les sommets les plus élevés. Il veut passer par un col plus au sud qui lui permettra d'atteindre sans difficulté la ville de Curicó, située de l'autre côté, au Chili. Il restera alors à remonter vers le nord pour gagner Santiago. Le plan de vol est simple. Mais au moment d'entamer le survol de la cordillère, au niveau du fameux col, une épaisse couche de nuages empêche les pilotes de voir le sol. Ils doivent donc se fier à leurs instruments et à leurs calculs pour savoir où ils se trouvent. À 15h24, le commandant de bord entre en contact avec l'aéroport de Santiago.
Tour de contrôle de Santiago, ici vol 571.
Parlez, vol 571.
Bonsoir Santiago, nous survolons Curicó.
Les pilotes se trompent. Ils pensent être passés de l'autre côté de la cordillère alors qu'ils sont encore au-dessus. Les nuages les empêchent de s'apercevoir de leur erreur. L'avion fait un virage à 90 degrés et met le cap vers le nord pour entamer sa descente vers ce qu'il pense être l'aéroport de Santiago. En réalité, il se dirige vers les hauts sommets de la partie centrale de la cordillère. Dans la cabine, où règne toujours une atmosphère de colonie de vacances, le steward a du mal à se faire entendre.
Nous allons bientôt atterrir, veuillez regagner vos places.
L'appareil se met à vibrer, mais personne ne semble s'en inquiéter. Fernando Parado, l'un des joueurs de l'équipe, racontera.
Ma sœur était devant, à côté de ma mère. J'étais assis plus loin dans l'avion. Les garçons bavardaient, riaient, lisaient ou jouaient aux cartes ensemble. Certains essayaient même de faire tanguer l'avion en sautant d'un côté ou de l'autre.
Soudain, un trou d'air fait chuter l'avion d'une centaine de mètres. Inquiétude et nervosité gagnent une partie des passagers. D'autres continuent à rire, excités comme s'il s'agissait d'un tour de grand 8 à la fête foraine. Un second trou d'air fait dégringoler une nouvelle fois l'appareil qui passe sous la couche de nuages. Dans les hublots apparaissent des arêtes rocheuses couvertes de neige. Elles semblent très proches, trop proches, à quelques mètres seulement.
C'est normal qu'on vole aussi près des montagnes.
Ça n'est pas normal, tout le monde l'a compris. Dans le cockpit, les pilotes voient se dresser devant eux un mur blanc. Ils poussent les moteurs au maximum pour reprendre de l'altitude. Côté passagers, des prières, des cris, des visages terrorisés. Le Fairchild tremble. Il se redresse, mais il est trop tard. L'aile droite percute le versant d'une montagne. Elle se brise et vient sectionner la queue de l'appareil qui se détache, laissant un trou béant à l'arrière de la cabine. Deux membres de l'équipage et trois passagers attachés à leur siège sont projetés dans le vide. L'aile gauche heurte à son tour le sol et vole en éclats. Ce qui reste de l'avion atterrit sur le ventre, sur la pente raide d'un glacier. Le fuselage glisse sur la neige comme une luge. Avec la brutale décélération, les sièges se décrochent et sont projetés vers l'avant. Quand l'avion s'immobilise, bon nombre de passagers sont coincés et compressés dans un enchevêtrement de fauteuils, de morceaux de métal et de bagages. Les rescapés les moins mal en point parviennent à s'extraire des décombres et tentent de porter secours aux autres. Le capitaine de l'équipe, Marcelo Pérez, bien que blessé au visage, organise le sauvetage.
Il y a quelqu'un là-dessous. Tire de l'autre côté. Prêt.
Avec le manque d'oxygène lié à la haute altitude, il faut redoubler d'efforts.
Canessa.
Roberto Canessa et Gustavo Zerbino, deux jeunes rugbyman étudiants en médecine, soignent les blessés en s'appuyant sur leurs connaissances encore très lacunaires.
Tiens, entoure-moi ça avec cette chemise, je regarderai plus tard.
Ils ne pourront pas compter sur le médecin de l'équipe. Son corps sans vie vient d'être retrouvé dans les décombres. Canessa peine à reconnaître le visage tuméfié et ensanglanté de l'un de ses coéquipiers. C'est Fernando Parado. Il est inconscient. Son pouls très faible ne laisse aucun espoir. Les étudiants en médecine décident de concentrer leurs efforts sur ceux qu'il semble encore possible de sauver. Plusieurs souffrent de fractures aux jambes. Certains présentent des entailles à l'abdomen.
La violence du choc avait fait éclater l'avion de toutes parts. C'était tellement arbitraire. Pourquoi certains étaient déchiquetés et d'autres n'avaient qu'un œil au beurre noir? Toi, oui. Toi, non. Comment fonctionne le destin? Selon quelle formule agit-il?
Agar, les rescapés extirpent des décombres les corps de leurs amis, de leurs frères, de leurs sœurs ou de leurs parents. Quelques jeunes sortent du fuselage par le trou béant à l'arrière. Avec difficulté, ils se fraient un passage dans la neige profonde, le long de la carlingue, pour atteindre le poste de pilotage.
Nous ne pensions qu'à une chose. Envoyer un SOS par la radio du pilote pour signaler notre position. Dans le cockpit, le pilote était mort, écrasé par le tableau de bord de l'appareil.
Son copilote est grièvement blessé, lui aussi compressé par son siège contre le tableau de bord. Impossible de le désincarcérer. Il supplie qu'on lui donne son sac avec son pistolet pour abréger ses souffrances et répète en boucle « On a passé Corico, on a passé Corico », comme pour se persuader qu'il a bien traversé la cordillère et qu'il est impossible que son avion se soit écrasé en pleine montagne. Le paysage autour de la carcasse du Fairchild ne laisse pourtant aucun doute. De la neige, des roches et plus loin, sur trois côtés, des pics et des murs gris vertigineux. La vallée glaciaire dans laquelle ils ont échoué s'ouvre vers le quatrième côté, orienté à l'est. Les rescapés n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Ils l'ignorent, mais la plupart des sommets qui les entourent ne portent pas de nom tellement ils sont loin de tout. Leur avion s'est écrasé au milieu de nulle part. La catastrophe a fait 12 morts et plusieurs blessés graves. Mais plus de la moitié des passagers a miraculeusement été épargnée. Ces survivants indemnes sont choqués, mais ils ne sont pas désespérés, comme le racontera Roberto Canessa.
Au début, la catastrophe ne concernait que les autres. Ceux qui étaient blessés, ceux qui étaient morts. Moi, j'avais la chance d'être vivant. Ce n'était qu'une question d'heure avant que l'on vienne nous chercher.
Impossible de faire marcher la radio dans le cockpit pour appeler à l'aide.
Elle est morte, il n'y a plus de jus du tout.
Marcelo Pérez, le capitaine de l'équipe, rassure tout le monde comme il peut. Les secours sont sûrement déjà en route. Ils ne tarderont pas à localiser l'épave. En attendant, il faut s'organiser pour tenir. Dehors, la neige s'est mise à tomber. La nuit approche, le vent souffle. Il fait déjà très froid. Quand le soleil disparaîtra, il faudra affronter des températures polaires. La plupart des passagers n'ont jamais vu la neige. Ils ne sont pas habillés très chaudement et une bonne partie de leurs affaires sont dans les valises qui se trouvaient dans la queue de l'appareil, perdues lors de l'accident. On dégage un coin du fuselage pour pouvoir s'y allonger, on récupère les housses des sièges pour faire des couvertures et un mur de fauteuils et de bagages est érigé pour obstruer le trou béant à l'arrière de la cabine et empêcher le vent glacial de s'y engouffrer. Malgré ces quelques aménagements, la première nuit est cauchemardesque. La température plonge et atteint moins 30 degrés. Compressés les uns contre les autres, plusieurs passagers craquent. Des blessés hurlent leur douleur. D'autres, à bout de nerfs, en viennent à les menacer pour qu'ils se taisent. Au petit matin, 5 blessés sont retrouvés morts. Le copilote, resté coincé dans le cockpit, fait partie de ceux pour qui la nuit a été fatale. Seule bonne nouvelle, Fernando Parado, dont l'état proche du coma avait été jugé désespéré, ouvre les yeux.
Quand j'ai commencé à reprendre mes esprits, j'ai demandé à ceux qui étaient près de moi : où est ma mère ? Où est Suzy ? Ils m'ont dit : Nando, l'avion est tombé, on s'est écrasé. Ta mère est morte et ta sœur Suzy est blessée à l'avant de l'avion. Ça a été comme un coup de hache. Mon cerveau a tout de suite fait le tri. Ma mère est morte. Je dois m'occuper de ma sœur. Je me suis traîné jusqu'à elle. Je suis resté près d'elle. Elle ne pouvait pas parler. Elle avait de graves lésions internes et elle communiquait seulement avec les yeux.
Minuscule au beau milieu des gigantesques pics acérés de la cordillère des Andes, les rescapés du vol 571 sont prisonniers d'un monde minéral, grandiose et résolument hostile. Autour de la carlingue, dans la neige, des débris, des valises, des cadavres. Livrés à eux-mêmes face à ce chaos, ils doivent s'organiser pour survivre.
On était dans une micro-société et il nous fallait un chef.
Mettez-vous en ligne.
C'est justement autour de Marcelo Pérez, le capitaine de notre équipe, qu'a commencé à se former le groupe. C'est nous qui lui demandions de nous encadrer, de rationner la nourriture, d'organiser les tâches qu'on pouvait faire, car on ne savait pas comment s'y prendre. Pour la nourriture, on faisait avec ce qu'on avait. Un petit carré de chocolat par jour et par personne, un petit bouchon de liqueur, et comme dessert, un doigt de dentifrice.
Pour se désaltérer, les rescapés commencent par avaler directement des morceaux de neige, mais cela leur gèle la bouche. L'un d'eux imagine un astucieux procédé. Il façonne une plaque d'aluminium provenant de l'intérieur d'un siège, y dépose une fine couche de neige pour la faire fondre au soleil. Un bec permet de récupérer l'eau dans une bouteille.
Tu es un génie, Fito.
C'est formidable. Il faut en faire d'autres.
Un petit groupe est chargé d'assurer l'approvisionnement en eau de tous. Un deuxième a pour mission de nettoyer la cabine. Un troisième constitue le corps médical. Il est composé par les étudiants en médecine Canessa et Zerbino, auxquels s'est associée Liliana Metol, une femme de 35 ans, qui voyageait avec son époux, Javier, lui aussi rescapé. Mais celui-ci peine à se rendre utile. Le manque d'oxygène lui cause nausées et vertiges. Il est le seul à être touché aussi durement par le mal des montagnes. Liliana et Javier s'étaient offert cette escapade en amoureux, au Chili, sans leurs quatre enfants. Depuis l'accident, ils ne cessent de penser à eux. Deux jours après le crash, dans l'après-midi, un bruit de réacteur. Les rescapés lèvent les yeux, un avion les survole. Les survivants sautent, hurlent, tentent de faire des signaux lumineux en faisant miroiter des rayons du soleil avec des pièces de métal. L'appareil finit par disparaître derrière les montagnes. Les a-t-il repérés ? Tout le monde n'en est pas convaincu. Quelques heures plus tard, un biplan les survole d'encore plus près. À nouveau, les naufragés s'agitent. Cette fois, il n'y a plus de doute. Chacun est persuadé d'avoir vu le petit avion faire un mouvement d'aile pour signaler qu'il les avait localisés. Soulagement général, mais la nuit ne va pas tarder à tomber. Les secours ne pourront sûrement pas intervenir dans l'obscurité. Il va donc falloir dormir une dernière fois dans la carlingue. Dans l'euphorie, Roberto Canessa ouvre une bouteille. Certains se servent allègrement dans les maigres réserves. Lorsque le capitaine Marcelo Pérez s'en aperçoit, il tente de raisonner ses amis.
Mais pour l'amour de Dieu, vous ne comprenez pas que vous jouez avec nos vies ? On ne sait pas quand ils vont arriver.
Marcelo Pérez a raison d'être prudent. Le lendemain, aucun hélicoptère en vue. À mesure que les heures passent, le doute s'installe.
Pourquoi, s'ils savent où nous sommes, ils ne nous laissent pas tomber de quoi bouffer ?
Parce qu'ils savent que les paquets s'enfonceraient dans la neige et qu'on ne serait pas capable d'aller les chercher.
En réalité, personne ne les a repérés. L'Uruguay, l'Argentine et le Chili ont envoyé des avions et des hélicoptères pour quadriller la zone où l'on suppose que le Fairchild s'est écrasé. L'épave se trouve bien dans le périmètre de recherche, mais le morceau de fuselage blanc, au creux d'un repli de l'immense cordillère, est absolument indétectable depuis le ciel. Les rescapés ne réalisent pas à quel point ils sont invisibles vus d'en haut. Le seul lien qu'il leur reste avec le monde extérieur est un petit poste de radio à pile retrouvé dans un bagage. Grâce à une antenne bricolée avec du fil électrique, ils parviennent à capter quelques stations. Les bulletins d'information leur confirment qu'on les recherche activement. Mais combien de temps encore vont-ils devoir attendre ? Au cours de la huitième nuit, Fernando Parado s'aperçoit que le corps de sa sœur, à côté de lui, est glacé. Il ne sent plus son pouls. en larmes, le jeune homme colle sa bouche contre la sienne pour raviver son souffle. En vain, Susanna est morte. La situation des 27 derniers survivants est de plus en plus critique. Les secours ne les trouvent pas. Fernando commence à envisager une expédition à travers la montagne pour aller chercher de l'aide. Mais ils n'ont quasiment plus rien à manger. Ils sentent leurs forces les abandonner chaque jour un peu plus. Alors, une solution pour se nourrir commence à faire son chemin dans les esprits. Mais elle est si dérangeante, si difficile à envisager, que l'on ose à peine l'évoquer en aparté.
Le même jour, trois ou quatre d'entre nous se sont mis à parler de la même chose. Moi, j'en ai discuté avec Carlitos. Et il m'a répondu, « Non, non, on ne peut pas. »
J'ai dit à Adolfo, « Nando est fou, il veut manger le pilote. » Adolfo m'a répondu, « Non, il n'est pas si fou que ça. Mes cousins et moi y avons déjà pensé. »
S'ils veulent vivre, les rescapés vont devoir transgresser l'un des tabous les plus ultimes de nos sociétés, accepter de manger de la chair humaine, se nourrir des cadavres des victimes conservés par le froid. Leur survie est à ce prix. Un soir, à l'abri de la carlingue, une grande discussion s'engage autour de Fernando Parado et Roberto Canessa.
Nando a raison.
Quoi ? J'arrive pas à croire ce que j'entends. Toi aussi, Roberto ? Et tu veux qu'on mange des êtres humains ?
Non, je veux qu'on mange de la viande pour ne pas mourir.
Je pourrais jamais.
C'est dégoûtant.
Je pourrais pas faire ça.
Les rescapés sont confrontés à un cas de conscience terrifiant auquel s'ajoutent des considérations d'ordre religieux. En Uruguay, comme dans toute l'Amérique latine, la religion catholique est très présente. La plupart des rescapés sont de fervents croyants. Comment ne pas considérer l'anthropophagie comme un péché ? Canessa argumente.
Tu crois bien que nous avons une âme qui quitte notre corps lorsque nous mourons ?
Je sais pas, je suis pas prêtre.
Si notre âme, à condition qu'on en ait une, quitte notre corps à notre mort, le corps n'est plus qu'une carcasse.
C'est le commencement de la fin.
Ce qui est dehors, là, dans la neige, c'est plus que de la viande, Antonio. La nourriture.
Tout le monde n'est pas convaincu, à commencer par Marcelo Pérez, le capitaine.
Qu'avons-nous fait pour que Dieu nous demande de manger le corps de nos amis morts ?
Qu'est-ce qu'ils en auraient pensé ?
Je sais pas.
Je sais que si je meurs, et si mon cadavre peut vous aider à survivre, je veux que vous l'utilisiez. En fait, si je meurs, et que vous ne me mangez pas où que je sois, je reviendrai vous botter le cul.
Ce soir-là, les naufragés des Andes concluent un pacte. Chacun accepte que son corps serve de nourriture aux autres s'il venait à mourir. Quelques-uns, comme Marcelo Pérez, Liliana et Javier Metol, se sentent totalement incapables de manger de la chair humaine. Mais ils ont accepté l'idée que les autres le fassent. Au moment de passer à l'acte, un silence pesant règne dans l'appareil. Canessa sort accompagné de trois camarades. Sans dire un mot, il se met à genoux au-dessus d'un corps. Avec un éclat de vitre, il fait une entaille dans un pantalon au niveau du fessier d'un des cadavres et découpe dans la chair durcie par le gel une vingtaine de fibres de la taille d'une allumette. Il les dépose sur le fuselage. Tour à tour, des rescapés viennent se servir. Dans leur coin, à l'abri des regards, surmontant leur dégoût, ils se forcent à avaler. Le lendemain, le petit poste de radio délivre une nouvelle qui s'abat comme un coup de massue sur la tête des rescapés.
L'armée de l'air a décidé d'interrompre ses vols. Les recherches de l'avion uruguayen ont été abandonnées.
Après 10 jours, les secours jugent impossible qu'il y ait encore des survivants. Le capitaine Marcelo Pérez s'effondre la tête dans les mains. Un profond désespoir s'empare de ses compagnons. C'est comme si l'on venait de les enterrer vivants.
Comment ma famille pouvait-elle m'abandonner? Comment mon gouvernement et deux autres pays, le Chili et l'Argentine, pouvaient dire « Les jeunes, c'est bon, on les laisse là ».
Jusque-là, on vivait suspendu à des suppositions. Ils viendraient demain, peut-être après-demain, mais on était sûr de rien. Pour la première fois, on était sûr de quelque chose. Ils ne nous cherchaient plus, et on devait sortir de là par nos propres moyens.
Marcelo, le capitaine, qui avait porté la petite communauté à bout de bras depuis l'accident et entretenu l'espoir de tous, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il se sent coupable d'avoir entraîné l'équipe dans cette tragédie. La terrible nouvelle vient de lui ôter tout espoir. Il se résout à manger lui aussi de la chair humaine. Cette nouvelle source de nourriture donne un regain d'énergie aux rescapés. Pour les plus vaillants, il est temps d'agir.
On a monté une expédition composée de trois phénomènes. Gustavo, Numa et Daniel Maspons. Ils étaient en bonne condition physique, mais il leur a fallu beaucoup de courage pour y aller. Ils sont partis escalader la montagne pour voir s'ils pouvaient retrouver la queue de l'avion.
Dans la queue de l'appareil se trouve, selon le mécanicien Carlos Roque, dernier survivant du personnel de bord, des batteries avec lesquelles ils pourront faire fonctionner le poste radio-émetteur du cockpit pour appeler à l'aide. Les trois courageux volontaires, emmitouflés dans plusieurs couches de vêtements, des coussins sanglés autour des chaussures, partent à l'assaut de la montagne, bien décidés à découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. La progression est difficile. À chaque pas, ils s'enfoncent dans la neige. Derrière eux, l'épave semble de plus en plus petite, jusqu'à disparaître complètement. Quand vient la nuit, leurs camarades s'inquiètent de ne pas les voir rentrer. Ils savent à quoi ressemblent les nuits de la cordillère à l'extérieur de leur abri de métal. Tout le monde redoute le pire. Le lendemain matin, les trois explorateurs sont de retour, mais ils sont dans un état épouvantable. L'un est quasiment aveugle. Tous souffrent de graves gelures aux mains et aux pieds. Ils ont survécu, mais l'expédition est un échec. Ils n'ont pas retrouvé la queue de l'avion.
À ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était du suicide d'escalader cette fichue montagne. Avant qu'ils partent, on savait que c'était très dangereux. Mais on n'imaginait pas les revoir dans un aussi sale état. On a compris grâce à Pedro, qui avait vécu quelque temps en montagne, que nous aurions de bien meilleures chances si on attendait le début du printemps austral, vers la fin du mois de novembre. Mais comment allions-nous survivre plus d'un mois jusque-là?
Au moins encore un mois à tenir. Ceux qui s'étaient refusés à manger de la chair humaine jusqu'ici finissent par se laisser convaincre. Javier et Liliana surmontent leur dégoût en pensant à leurs quatre enfants. Ils sont prêts à tout pour les revoir. Ils se sont même promis d'en faire un cinquième quand ils s'en seront sortis. Les jours passent, chacun s'acquitte de la tâche qui lui a été confiée. Faire de l'eau, découper les rations journalières de viande, les répartir équitablement, nettoyer la cabine. Un roulement est établi pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui dorment près de l'entrée, à côté du mur de siège et de valise, là où il fait le plus froid. La nuit, on se serre pour se tenir chaud. Chacun sait que sa survie dépend de celle des autres. Personne ne pourrait résister seul bien longtemps dans cet enfer blanc. Solidaire, la petite communauté tient bon sans se douter que la montagne lui réserve une nouvelle épreuve. En pleine nuit, le 29 octobre 1972, soit 16 jours après le crash, l'un des rescapés réveillés sent une légère vibration. Un grondement sourd se rapproche comme un troupeau de chevaux au galop. Soudain, des tombereaux de neige pénètrent dans le fuselage et ensevelissent tout. Une une avalanche, rien n'aurait été épargné aux rescapés du vol 571. Entièrement recouvert par la neige, Fernando Parado pense sa dernière heure arriver.
J'essayais de bouger, mais j'avais l'impression d'être entouré de ciment. Je ne pouvais plus remuer un seul orteil. J'ai réussi à prendre quelques inspirations, mais très vite, la neige a rempli ma bouche. Je laissais toute résistance s'évanouir. C'était fini. Plus de peur. Plus de lutte. Juste un silence infini. Et du repos. Soudain, une main a arraché la neige qui recouvrait mon visage et j'ai été propulsé dans le monde des vivants.
Où sont les autres ?
Guérisse la lumière par là !
Quelques rescapés ont réussi à se dégager et s'affairent pour sauver leurs compagnons. Ils creusent en tous sens, se précipitent lorsqu'ils aperçoivent une main émergée qui s'agite. L'urgence est de dégager les visages, donner de l'air. Javier, le corps encore bloqué sous la neige, appelle sa femme, Liliana, de toutes ses forces et supplie les autres de la retrouver. Quelques minutes plus tard, la panique laisse place à un silence de mort. L'avalanche a tué 8 personnes. Parmi elles, Liliana Metol, Marcelo Pérez, le capitaine de l'équipe, et Carlos Roque, le mécanicien de l'avion. Une insondable tristesse s'empare des 19 derniers survivants. Mais il faut encore lutter. L'avion a été entièrement enseveli par l'avalanche. Dans le petit espace exigu entre la neige et le plafond de la carlingue, l'oxygène se raréfie. Ils ne pourront bientôt plus respirer. Avec une barre d'acier, Fernando Parado parvient à transpercer l'épaisse couche de neige qui les sépare de la surface. De l'air s'engouffre par le petit orifice. Il respire. Mais les voilà prisonniers. Impossible d'accéder à l'extérieur. Seule source de nourriture à leur disposition, les corps des amis qu'ils viennent de perdre dans l'avalanche. Un nouveau cran est franchi. Cette fois, la chair est découpée sous les yeux de tous et il n'est plus possible de la faire sécher au soleil. Après avoir vécu 3 jours confinés, tels des sous-mariniers des neiges, les rescapés parviennent à creuser un tunnel pour regagner la surface. En attendant que la météo s'améliore, les survivants mûrissent leur plan pour s'échapper de cet enfer. On choisit parmi les volontaires ceux qui semblent les plus à même d'aller chercher du secours. Fernando Parado, Roberto Canessa et Antonio Vizintin sont désignés. Ils auront droit à une plus grande ration de viande, aux meilleures places pour dormir et seront exemptés des tâches quotidiennes. Ainsi, lorsque la neige commencera à fondre vers la fin novembre, ils auront retrouvé des forces et seront prêts pour partir en expédition. Le copilote, avant de mourir, a répété plusieurs fois qu'il avait passé Curicó, situé sur le versant chilien des Andes. En étudiant une carte retrouvée dans les débris, les rescapés ont acquis la certitude que les vallées verdoyantes du Chili se trouvent juste de l'autre côté de la barre rocheuse qui se dresse à l'ouest. « Le Chili est à l'ouest », répète-t-il comme un mantra. Le 17 novembre, Canessa, Parado et Vizintin, emmitouflés comme il se doit, des réserves de viande dans leurs sacs, sont prêts pour le grand départ. Puisque gravir les montagnes qui les entourent semble impossible, ils ont décidé de descendre la vallée. Certes, elle part vers l'est, mais ils ont l'impression qu'elle tourne ensuite autour de la montagne. Ils font le pari qu'elle repart à 180 degrés vers le Chili. Le pari est audacieux, sûrement un peu trop, mais il va leur permettre de faire une découverte qu'ils n'espéraient plus.
Hé ! Venez voir ça !
Après quelques heures de marche, ils aperçoivent la queue de l'avion. Celle-ci prend des allures de caverne d'Ali Baba. Dans les valises, des vêtements propres et chauds, un équipement de ski, du chocolat, du sucre, du pâté, du rhum, des bouteilles de soda. Et puis dans un coin de la soute,
regardez,
les fameuses batteries susceptibles de faire marcher la radio du cockpit. les trois compagnons hésitent. Faut-il rebrousser chemin pour essayer de faire fonctionner la radio ou continuer ? Après avoir exploré les alentours, ils concluent que la vallée ne les conduira pas vers le Chili. Elle s'enfonce dans la cordillère. Ils décident de regagner l'avion.
1, 2, 3.
Ouais, ben on va jamais y arriver.
Les batteries étant trop lourdes pour être transportées, il faudra revenir avec le poste radio-émetteur. Le mécanicien étant mort dans l'avalanche, c'est à un jeune de l'équipe, Roy Harley, que l'on confie la mission de faire fonctionner la radio. Les compétences en électronique que lui attribuent ses coéquipiers tiennent au fait qu'il a su connecter les éléments de la chaîne stéréo d'un ami.
Bien fait. Excuse-moi, à tout faire griller. Donne-moi ça.
Au bout de 8 jours, Roy jette l'éponge. Impossible de faire fonctionner cette maudite radio. Avant de quitter la queue de l'appareil pour regagner l'avion, Canessa a l'idée de récupérer les morceaux de textile isolant qui entourent le système de chauffage.
Ce truc, c'est une trouvaille.
Cousus entre eux, ils feront un très bon sac de couchage pour la prochaine expédition. Celle-ci s'annonce plus difficile. Cette fois, ils n'ont plus le choix. Ils vont devoir gravir la barre rocheuse qui se dresse à l'ouest. Fernando Parado est impatient de repartir.
Nando avait 2 raisons essentielles de vouloir quitter l'avion. Tout d'abord, dire à son père qu'il était vivant. Et ensuite, ne pas être obligé de prendre la décision horrible de toucher au corps de sa mère et de sa sœur. C'est pour ça qu'il avait hâte de partir.
Mais Canessa tergiverse, il reporte sans cesse le départ.
Écoute, Nando, si tu veux partir, vas-y.
Non, j'irai quand tu seras prêt, parce que je veux partir avec toi.
Le 12 décembre, soit 61 jours après le crash, Canessa, Parado et Vizintin, munis de leurs nouveaux sacs de couchage et de leurs provisions de viande, se mettent en route sous le regard inquiet des 13 autres survivants.
Tous nos espoirs reposaient sur eux. De leurs jambes dépendaient nos vies.
Après avoir marché quelques mètres, Fernando se retourne et lance à ses amis qui le regardent partir.
Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Alors, si vous devez utiliser les corps de ma famille, faites-le. N'hésitez pas.
La progression dans la pente abrupte est encore plus lente que prévu. Après une journée d'efforts intenses, les 3 compagnons n'ont gravi qu'un tiers de la distance qui les séparait du sommet. Ils passent la nuit recroquevillés dans leur unique sac de couchage, à l'abri d'un rocher. Dès les premiers rayons du soleil, ils reprennent leur pénible ascension. La pente devient si raide que Vizintin n'ose plus regarder en bas. Quand au bout du 3e jour, Parado atteint enfin le sommet, le panorama qui se déploie sous ses yeux le pétrifie. Il pensait apercevoir les vallées verdoyantes du Chili. Devant lui se dresse, à perte de vue, une multitude de sommets enneigés, semblables à celui sur lequel il se trouve. Quand Canessa arrive à son tour, pour lui aussi c'est un choc.
On s'est fait avoir. On n'a aucune chance de s'en tirer. Moi, je fais demi-tour.
Parado se ressaisit vite.
Eh bien, moi, je continue.
Plus question de faire demi-tour. Renoncer maintenant reviendrait à condamner tout le monde à une mort certaine. Alors il s'accroche à ce qu'il peut pour entretenir l'espoir.
Mais regarde vers l'ouest, tu ne vois pas ? Sur la gauche, là, 2 montagnes, sans neige.
Mais elles sont très loin. Ça nous prendra un temps fou pour y aller. Et nous n'avons des provisions que pour 10 jours.
Fernando propose que Vizintin leur laisse ses rations de viande et retourne à l'avion. Avec ce supplément de nourriture, ils pourront marcher plus longtemps et plus loin. Canessa finit par se laisser convaincre. Antonio Vizintin ne se fait pas prier et redescend en glissant jusqu'à l'avion. En moins d'une heure, il retrouve ses camarades et les informe de la situation. Ils n'ont plus qu'à attendre et espérer. Pour Fernando Parado et Roberto Canessa, commence une longue marche à travers les montagnes. Ils avancent, luttant contre la fatigue et le froid. Au bout de quelques jours, la neige sous leurs pieds leur semble moins compacte. Imperceptiblement, le paysage change. Ils tombent sur un ruisseau dans lequel se dressent quelques plantes aquatiques, de l'eau liquide, de quoi les encourager à continuer. Canessa est épuisée. Parado marche devant. Au détour d'un méandre de la vallée, ses yeux se remplissent de larmes. Plus de neige, de l'herbe, des genêts, des fleurs jaunes et pourpres. La vie. Parado presse le pas. Canessa a de plus en plus de mal à suivre. Avec la remontée des températures, leur réserve de viande s'est gâtée et l'a rendue malade. Fernando résiste et le pousse. Pas question de s'arrêter. Le jour suivant, ils aperçoivent des vaches. Mais l'endroit semble si désert et inhabité que les deux amis se demandent s'il ne s'agit pas d'animaux revenus à l'état sauvage. Après 10 jours de marche et plus de 80 km parcourus, en fin de journée, alors qu'ils longent un torrent, Roberto Canessa aperçoit sur l'autre rive
Lando.
Un homme à cheval.
Lando, regarde !
Ils lui font de grands signes. Le fermier les voit, mais il n'entend rien. Le bruit du torrent couvre leur voix.
S'il vous plaît ! Aidez-nous ! Aidez-nous ! À l'aide ! S'il vous plaît !
Le cavalier finit par s'en aller. Les aurait-il pris pour de simples touristes ? Non. Le lendemain matin, il réapparaît. Depuis la rive opposée, il leur lance une pierre enveloppée d'un papier avec de quoi écrire. Fernando griffonne fébrilement un message qu'il lui envoie immédiatement.
Je viens de l'avion qui est tombé dans les montagnes. Je suis uruguayen. Nous avons marché pendant 10 jours. Dans l'avion, il y a encore 14 personnes accidentées. Nous n'avons rien à manger, nous sommes épuisés. Quand viendrez-vous nous chercher ? Je vous en supplie, nous pouvons à peine marcher. Où sommes-nous ?
Après leur avoir lancé un morceau de pain, le fermier part prévenir les secours. L'incroyable nouvelle ne tarde pas à faire le tour des rédactions. Plus de 2 mois après le crash, il reste des survivants. Autour de l'avion, les 14 autres rescapés apprennent grâce à leur petit poste de fortune que leurs compagnons ont réussi. Leurs hurlements de joie résonnent dans toute la montagne. Enfin, ils vont être secourus. Le cauchemar touche à sa fin. Le lendemain, 2 hélicoptères avec à leur bord Fernando Parado pour guide viennent les délivrer de leur enfer. Un enfer qui aura duré 72 jours. Très amaigris, les rescapés sont conduits à l'hôpital de Santiago. Ils vont aussi devoir affronter la presse qui se passionne pour leur histoire. Quelques heures seulement après avoir été secourus, Roberto Canessa et Fernando Parado ont déjà eu à faire face aux questions embarrassantes d'une nuée de journalistes surgis de nulle part.
Comment avez-vous survécu ? Que mangiez-vous ?
Sur
ce sujet,
on préfère ne pas répondre.
Les autres nous donnaient leurs rations pour avoir assez de force et partir en expédition. Les rations étaient pauvres, les autres mangeaient très peu, on n'avait presque rien.
Dans un premier temps, les rescapés refusent de raconter publiquement comment ils ont survécu. Avant tout par considération pour les familles de ceux qui ne sont pas revenus.
Je voulais aller chez chacun de mes amis et leur raconter comment ça s'était passé. À quel point ça avait été triste, et ce qu'on avait dû faire pour survivre. Je ne prétendais même pas qu'ils me comprennent. Mais je voulais au moins qu'ils apprennent par nous, et pas par la presse, la vérité sur l'horreur qu'on avait vécue dans cette montagne.
Mais la pression médiatique est trop forte. Certains journaux parlent déjà de cannibalisme. Des photos de restes humains prises autour de l'avion sont publiées. Dans une conférence de presse, les rescapés font face.
Nous ne voulons pas que cette affaire, qui est pour nous très intime, soit salie ou déformée d'une quelconque manière. Cet acte doit être interprété à sa juste mesure. N'oublions jamais le courage de ces jeunes gens.
Depuis le drame, les rescapés ne se sont jamais perdus de vue. Chaque année, le 22 décembre, ils se rassemblent pour commémorer le jour de leur sauvetage et rendre hommage à leurs proches disparus, unis à jamais par ce qu'ils ont vécu.
Nous sommes revenus des Andes avec une nouvelle façon de penser. En vivant à l'ombre de la mort pendant aussi longtemps, nous avons appris de la façon la plus nette et la plus radicale qui soit ce qu'être vivant signifie.
Extremis, histoire de survie, est un podcast original de France Inter.